Bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais contacter Aros, que j'ai commencé au début septembre. Comme ça fait déjà trois mois, je vais commencer par un petit rappel de ce dont j'ai parlé à septembre, c'est-à-dire c'était sur le premier chapitre. Est-ce que tu peux mettre la première diapo, s'il te plaît?
Il peut le faire. Chauffe.
Donc voilà, mon message, donc ce sera un rappel sur le premier chapitre. Ensuite, je vais lire du chapitre 2, verset 4 au chapitre 3, verset 2. Et nous verrons comment Judas et Israël ont épuisé la loi divine. Puis on verra quel effet ce mépris a eu sur leur comportement. Et ce sera l'occasion de faire un parallèle avec nos comportements. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, au regard de la loi divine qui n'a pas changé. Enfin, on verra quelle a été la réponse de Dieu face à ce comportement des peuples de Juda et d'Israël. Et après, la conclusion, je terminerai avec les leçons que nous, chrétiens d'aujourd'hui, peuvent en tirer. Donc, la diapo, s'il vous plaît. Donc, le rappel du message précédent. Eh bien, le caractère de Dieu, il rugit de colère, c'est dans les premiers versets, suite aux atrocités perpétrées par les peuples qui entouraient Israël et Juda, à l'époque d'Amos. Et la réaction de Dieu, ça a été la punition sévère des responsables, ainsi que leur peuple, en les détruisant par le feu. N'oubliez tout de même pas que le Dieu d'Amos, à l'époque, est le même que notre Dieu d'aujourd'hui, et qu'il n'a pas changé, et qu'il présente toujours deux visages, celui exprimant la colère et celui exprimant la miséricorde. Il faut rappeler également que Dieu a été patient avec ses peuples. Il a attendu de voir s'ils allaient changer d'attitude, s'ils allaient examiner leur conscience pour se rendre compte de leurs actes odieux, comme la torture, les mises à mort, des exactions, le non-respect des morts, l'humiliation de populations et de leurs ancêtres, et sans se soucier des conséquences. Et cette soif de sang, cette spirale entraînant l'homme vers plus d'atrocités, plus de terreur, se trouve encore dans les guerres qui ont rythmé l'humanité. Par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, dont tout le monde connaît les atrocités qui ont eu lieu, à commencer par les nazis qui ont d'abord semé la terreur en Allemagne, puis après dans le reste de l'Europe. Plus récemment, on a tous encore en mémoire la guerre de Syrie et également l'établissement d'un califat par le groupe ISIS. Ils ont fait régner la terreur à la fois au Moyen-Orient et même également en Occident, avec des actions terroristes. Donc, en plus du livre d'Amos, il y a d'autres livres qui parle du sort réservé aux hommes, qui sème la terreur par soif de sang en nous rappelant que le salaire du péché peut être la mort. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains 6, chapitre 6, versets 21 et 23. Romains, chapitre 6, versets 21 et 23. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rejouissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. En effet, on a vu au premier chapitre que la justice divine a consisté à exterminer par le feu les criminels, incriminés chez les peuples vivants autour d'Israël et de Juda. Et nous allons voir maintenant ce qu'il en est du peuple de Dieu à l'époque d'Amos, c'est-à-dire le peuple de Juda et d'Israël. Alors, si je peux mettre la diapo numéro 3. je vais. Là, vous pouvez aller dans le livre d'Amos, au chapitre 2, verset 4. Et je vais lire du verset 4 au verset 8 pour commencer. Et après, je lirai les versets qui suivent, jusqu'au chapitre 3, verset 2. Donc, le verset 4, voici. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Judas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel. Et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances. Parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères. Après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Judas. Et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. À cause des 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qui les condamnent. Dans ce passage, Amos s'adresse à Judas puis à Israël, c'est-à-dire au peuple élu ou choisi par Dieu, avec qui Dieu a une relation particulière, qui remonte à Abraham, c'est-à-dire plusieurs siècles avant l'époque où vivait Amos. Je vous rappelle, Amos, au 8e siècle avant Jésus. Avant de continuer plus en profondeur dans ce texte, j'essaie dans ce message de faire des parallèles entre le peuple de Dieu au temps d'Amos et les chrétiens d'aujourd'hui, dont vous ici présents à ce culte en représentez un tout petit échantillon. Et par notre croyance en Jésus-Christ, nous les chrétiens sommes uniques, sommes sanctifiés par notre foi. Eh bien, les Juifs de Juda et d'Israël à l'époque d'Amos se savaient également uniques. Ils savaient qu'ils représentaient le peuple de Dieu depuis de nombreuses générations. Mais ce savoir unique, ce savoir protégé par Dieu, cet héritage de la foi de leur père, a eu un effet qui s'est estompé au cours du temps. Pour aboutir à des comportements au niveau individuel et au niveau des royaumes de Juda et d'Israël condamnables par Dieu. Et voyons les reproches que Dieu leur fait dans ce passage. Il leur reproche le mépris de la vérité, émanant des lois de Moïse, des lois transmises à Moïse, pardon. Et comme on peut le voir dans d'autres versets de la Bible, détenir la vérité n'est pas l'apanage des leaders du peuple, comme les prophètes, les rois, les prêtres. Mais Amos ne fait pas de référence dans ce passage. Il dit que suivre le chemin de la vérité, c'est le problème de tout un chacun. Et dans le cadre de la nouvelle alliance entre Dieu et les chrétiens, que vous êtes, que nous sommes, maintenir l'enseignement de Dieu, maintenir sa vérité au sein de l'Église, est absolument primordial, comme le rappelle Paul dans son épître à Timothée. Et si vous voulez bien aller dans le livre de Timothée, au chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 1. Lui aussi parle de l'importance de maintenir la vérité au sein de l'Église. Et c'est dans les versets 13 à 14. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et aussi au chapitre 2, versets 1 et 2, vous pouvez dérouler. Et toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Donc vous voyez, Paul insiste pour le maintien de la vérité dans son église, pour éviter les dérives. Pour revenir au peuple de Juda et d'Israël à l'époque d'Amos, ils avaient la loi divine, mais ils ont développé des traditions humaines en faisant passer l'autorité humaine devant celle de Dieu, en validant les erreurs des générations précédentes, comme par exemple l'adoration des idoles. Celui qui a été mentionné aussi par Marie-Odile quand elle a lu son passage. Et pour nous, chrétiens, avec qui Dieu a scellé une nouvelle alliance depuis par son Fils Jésus-Christ, ce même danger de dériver loin de la vérité, de développer les traditions humaines, c'est possible de génération en génération. Et heureusement, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 4, Jésus nous met en garde contre les traditions humaines. Si vous voulez bien aller dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, et c'est le début du chapitre 15, versets 1 à 4, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit : et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit : honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Et ce passage d'Amos m'a rappelé ce que nous avons commémoré il y a 2 ans, en 2017, les 500 ans de la Réforme, dont les acteurs principaux ont été Luther et Calvin. En fait, c'était l'anniversaire du placardage sur la porte de la collégiale de Wittenberg, je ne sais pas si je prononce ça bien, mais pour les germanophones, je m'excuse, des 95 thèses contre les indulgences et leur commerce qui eut lieu le 31 octobre 1517. Et les injugences au IIIe siècle, eh bien, correspondaient à l'admission de ses péchés, à un prêtre, suivi d'un engagement à faire un acte de piété, un don, un pèlerinage, une mortification des prières. Et la pratique des indulgences du IIIe siècle au XVIe siècle s'est dégradée et a abouti à la réforme. On peut voir ça comme un rugissement de Dieu également, à travers les actions de Luther et Calvin, qui ont pu toucher un grand nombre de personnes, grâce à l'invention de l'imprimerie, et l'édition de Bible en beaucoup plus grand nombre. Et cela nous ramène au verset 4, qui dit que le peuple de Juda s'est éloigné de la loi divine et de ses ordonnances, de ses statuts. Et dans la loi, il faut comprendre ici la loi au sens de législation. Il ne faut pas la comprendre au sens de législation, mais au sens d'instruction, d'enseignement de la vérité. Et le mot statut, ordonnance, eh bien, peut-être traduit par le mot gravé ou inscrit dans la pierre, exprimant ainsi une vérité immuable, qui ne change pas, incorruptible. Et pour nous, aujourd'hui, cette vérité n'a pas changé. Elle se trouve dans notre Bible, accessible à tous de nos jours, juste par un simple téléchargement gratuit sur notre portable ou tablette. Et en plus, vous pouvez choisir la version qui vous convient le mieux, et télécharger plusieurs ou passer d'une à l'autre. Donc la parole est accessible à tout le monde, très facilement. Est-ce que tu peux passer la diapo 4? Sur cette diapo, j'ai listé les comportements déviants que Dieu a reproché à Judas et à Israël, à travers Amos, qui, je le rappelle, venait d'un petit village au sud de Jérusalem, qui s'appelait Tekoa, mais il a principalement prêché dans le nord, donc en Israël. Et que reproche Dieu à ce peuple? Je reproche l'abus des pauvres et la corruption, la prostitution, ou adultère, ou inceste, Donc il y a des versets pour chaque reproche. L'abus d'alcool et l'adoration des idoles. En comparant le comportement de Judas et Israël à celui des chrétiens d'aujourd'hui, je veux juste revenir sur deux problèmes qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Le premier, c'est l'abus des pauvres, qui peut-être de nos jours est un peu plus insidieux, moins évident, indirect. En effet, la France est un pays riche, où chacun d'entre nous a un pouvoir, peut-être qu'il ne réalise pas, mais c'est celui de consommateur. Et pendant la préparation de ce message, et en parlant avec Olivier, on s'est demandé si chacun d'entre nous, avant d'acheter un t-shirt, une chemise, un jean, réfléchit à la manière dont cet article a été fabriqué. Si la personne qui a cousu ce vêtement a été correctement rétribuée, ou si nous, passivement, participons à l'exploitation de personnes qui travaillent à des milliers de kilomètres. Ça, c'est un exemple. Je suis sûr que vous pouvez penser à d'autres inégalités en France ou au niveau planétaire. Et je me demande si le style de vie de pays des riches n'est pas établi aux dépens des pays pauvres. Comme toute l'humanité est appelée à suivre Jésus. Oui, depuis que Jésus est venu, on a été appelé à évangéliser dans les quatre coins de la Terre. Eh bien, en termes d'inégalité, je pense qu'il faut raisonner également au niveau planétaire, et pas seulement au niveau de notre pays ou d'un autre, de notre pays ou celui d'un autre pays. Car le peuple de Jésus, maintenant, est disséminé sur toute la Terre. Pas comme au temps d'Amos et Dieu. Ah ben, le peuple élu était seulement Judas et Israël. Le deuxième problème qui touche à la fois les chrétiens et les non-chrétiens, c'est la relation par rapport à la prostitution, à l'adultère, aux plaisirs sexuels de manière plus générale. À l'époque d'Amos, dans une maison, il n'y avait pas seulement le père, la mère et les enfants, comme on peut dire aujourd'hui, la famille nucléaire, il pouvait y avoir aussi les grands-parents, les gendres, les belles-filles, les oncles, les tantes. Et donc, il y avait plus de proximité au sein de la famille élargie, et ceci pouvait conduire à des comportements déviants, comme c'est mentionné au verset 7 de ce chapitre. Par contre, aujourd'hui, dans les pays développés, comme la France, les familles sont beaucoup plus petites. Soit seulement les parents, ou les enfants, ou soit des familles monoparentales. Mais dans ce contexte, une autre tentation est entrée dans les maisons. C'est celle des sites internet, qui viennent envahir notre quotidien, et les sites de rencontres, les sites porno, qui peuvent conduire à l'adultère ou à des addictions, au plaisir sexuel. Je n'ai pas vérifié les statistiques, mais on était en vacances en Californie, en parlant avec la sœur de Loïs, qui, elle, anime un groupe d'aide aux gens qui souffrent d'addiction, à part ça, avec son église. Peut-être vous connaissez les 12 étapes pour récupérer, pour sortir d'addiction. Bien, elle disait qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient d'addiction à la pornographie. C'était pas une des addictions majeures. Donc, soyons vigilants. Le malin utilise la technologie pour nous détourner de nous. Voyons maintenant la réponse de Dieu face au comportement des peuples de Juda et d'Israël. Donc, là, on peut reprendre nos Bibles et je vais lire l'autre partie du texte en commençant au verset 9. Chapitre 2, verset 9. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Et je vous ai conduit 40 ans dans le désert. Et pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes. Et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Et vous, vous avez fait boire du vin aux Nazaréens. Et aux prophètes, vous avez donné cet ordre. Ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai, comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir. Celui qui a de la force ne pourra s'en servir. Et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. Celui qui a les pieds légers n'échappera pas. Et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Encore deux versets dans le chapitre 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Voilà. La réponse, quelle est la réponse de Dieu? Eh bien, dans les versets 9 à 10, Dieu leur rappelle ce qu'il a fait pour eux. Comment il a manifesté sa présence et sa puissance. En anéantissant leurs ennemis. En les faisant sortir d'Égypte. En leur envoyant des prophètes pour les guider. Et malgré cela, Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Ils ne changent pas leur comportement. Leur mépris, leur insolence sont flagrants pour Dieu. Il les connaît bien. Et donc, la sentence de Dieu est la même que pour les autres peuples. C'est leur destruction. Une destruction par le feu du palais de Jérusalem. Historiquement, vous pouvez vérifier, cette destruction a eu lieu lors de l'invasion de Juda par le roi Nabucodonosor II et l'exil du peuple vers Babylone en 600 avant Jésus-Christ. Donc c'est environ 150 ans après les prophéties d'Amos. Et ce destin tragique des peuples de Juda et d'Israël s'est réalisé sans rupture entre l'alliance de Dieu et son peuple. Car Dieu leur reste fidèle, lui reste fidèle. Mais le dessein de Dieu, l'objectif de Dieu, c'était de purifier son peuple à travers la guerre et l'exil. Pour ceux qui restent, après ces tribulations, lui soient fidèles et se remettent à la droite. En conclusion, dans ce chapitre, nous avons vu le comportement du peuple de Juda et d'Israël, qui n'est pas meilleur que celui des autres peuples voisins. Ils ont ignoré Dieu et l'ont méprisé. Ils ont adoré d'autres dieux. Et ils se sont comportés de manière inacceptable, particulièrement à l'égard des pauvres. Et Dieu a attendu qu'il leur a envoyé le prophète Amos. Et mais ils n'ont pas entendu le prophète. Comme s'il était écrit, ils leur ont même donné du vin pour les prophètes. Ils les ont ignorés, ils les ont empêchés de parler. Puis plusieurs générations plus tard, Dieu les a punis par la mort ou l'exil. Et quelle est la leçon pour nous de ce passage? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien, en tant que convertis, nous avons accepté Jésus comme notre sauveur. Et pour que ce chemin avec Jésus soit fructueux, Il faut qu'on reçoive la parole, comme nous faisons aujourd'hui, et que nous devenions ses disciples, c'est-à-dire ceux qui font les bons choix, ceux qui lui obéissent. Et après son départ, après la résurrection de Jésus et son départ 40 jours plus tard, Jésus ne nous a pas laissés seuls pour pouvoir le suivre. Mais il nous a donné le Saint-Esprit. Et en étant rempli, nous allons pouvoir examiner au réaxe de nos comportements. Pour ne pas, par nos actions, s'éloigner de Dieu. Et je terminerai par la lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 7, verset 21. L'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je terminerai par une